Le monde qui bouge, l'interview.
On se dirait vers un accord. En tout cas, ce sont les dernières informations que nous donne Axios, confirmées par Antoine Delard, qui est notre correspondant à Washington. Un protocole d'accord qui serait sur le bureau de Donald Trump. Notre invité pour en parler, c'est David Rigoulet-Rose. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. On entend dire que désormais, tout est dans les mains de Donald Trump. Il n'a plus qu'à dire oui ou non au protocole d'accord. C'est là où on en est ce matin, David.
Oui, pas uniquement, parce qu'il semblerait que le guide suprême, Mojtaba, n'aurait pas validé encore. Donc des deux côtés, il faudrait la validation ultime.
On attend la dernière signature.
Ouais, c'est ça. Mais effectivement, il y a un protocole d'accord qui aurait été formaté.
Est-ce qu'on aurait dedans prolongation du cessez-le-feu de 60 jours, des pourparlers sur le programme nucléaire en cours et surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup à BFM Business, la réouverture d'Hormuz dans les 30 jours sans restriction, pour l'instant, sur les premières pistes.
Il y a encore les narratifs contradictoires, puisque les Américains disent sans aucune restriction. Et les Iraniens disent que de toute façon, on ne reviendra pas à la situation hantée. Donc, il y a encore du flou, même si les grands paramètres semblent avoir été définis, et notamment dans les modalités d'un séquençage. C'est-à-dire d'abord la question d'Hormuz et postérieurement la question sur les négociations nucléaires.
Sur Hormuz, on a eu des menaces de Donald Trump, notamment autour d'Oman, en disant pas question de s'organiser autour du Détroit.
Oui, on a cru que c'était un lapsus, d'ailleurs, quand il a menacé Oman. Oui. Parce que c'est un des deux gardiens du Golfe, évidemment, géographiquement parlant et politiquement parlant.
Mais parfois, il parle du Groenland et de l'Islande. Oui, maintenant, on s'est dit, c'est peut-être Iran et Oman.
Oui, mais c'était pas un lapsus. C'était une mise en garde pour Oman, pour éviter qu'Oman soit face avec l'Iran, justement, établissent un accord de partenariat pour la gestion taxative, on va dire, en tout cas avec un prélèvement financier à la demande de Téhéran, d'ailleurs, sur le Détroit. En fait, le sultan de Mascate n'a jamais dit qu'il allait rentrer dans cette logique-là. Il faut rappeler qu'ils sont signataires de la convention de Montego Bay, du droit de la mer. Ce que n'est pas l'Iran, justement.
Annalisa.
En tout cas, en parallèle des négociations avec l'Iran, Donald Trump essaye aussi de pousser pour que les États du Golfe, en particulier les Saoudiens et le Qatar, rejoignent les accords d'Abraham. Est-ce que c'est envisageable pour eux ?
Oui, alors ça fait partie des déclarations un peu curieuses du président Donald Trump, surtout dans le contexte actuel. C'est-à-dire c'était un peu comminatoire à l'endroit de Riyad notamment, parce qu'évidemment c'est l'Arabie Saoudite le point central pour finaliser les accords d'Abraham. Mais les Saoudiens ont toujours dit que ça ne pourrait pas se faire avant que la question palestinienne soit réellement examinée avec sérieux dans la perspective d'un État palestinien. On en est loin. Et donc c'est vrai que c'était une déclaration pour le moins étrange. Ça s'adressait aussi au Qatar, puisqu'il faut rappeler que dans les accords d'Abraham de septembre 2020, il y a les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, pour ce qui concerne la péninsule, qui avaient effectivement normalisé avec Israël. Et on a vu les liens étroits qui s'étaient tissés, justement, même à la faveur de la guerre, puisque les Émirats ont bénéficié du dôme de fer israélien pour se protéger.
Mais est-ce que c'est pas pour montrer qu'il fait mieux que ce qui avait été signé auparavant? Il parle du coup de Barack Obama, dit qu'il a fait mieux. C'est pour dire, j'ai bien fait d'y aller, j'ai avancé sur une partie du dossier.
Ouais, en disant, avec tout le travail que les Américains ont fait, vous devriez, ce serait une nécessité que vous signiez, etc. Alors, c'est son mantra. Hein. Pour le coup, il y a une certaine constance depuis son premier mandat. Il veut parachever. Ça fait partie. Il veut que ça soit son héritage géopolitique à l'issue de son deuxième mandat. C'est-à-dire d'arriver à ce que l'Arabie Saoudite fasse la normalisation, parce que ça entraînerait évidemment. Vu le poids de l'Arabie Saoudite, à la fois géopolitique, économique, c'est le pays des deux lieux saints, donc aussi une extension aux pays musulmans, il y aurait un effet d'entraînement potentiel. C'est pour ça qu'il rêve effectivement que l'Arabie Saoudite. Mais il y a la question palestinienne qui bloque.
Alors justement, la question palestinienne, on a eu Annalisa des annonces du côté d'Israël ces derniers jours. Avec la bande de Gaza.
Oui, effectivement, avec Israël qui annonce qu'ils veulent contrôler 70% désormais de la bande de Gaza. C'est une rupture du cessez-le-feu, une rupture du pacte qui a été signé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël peut finalement ne pas respecter?
Oui, alors c'est effectivement une annonce du Premier ministre, parce qu'il y a la fameuse ligne jaune en fait, qui était le premier retrait, et qui était sur 60%. Donc là, c'est un élargissement. C'est justifié pour des raisons sécuritaires, mais ça pose le problème effectivement par rapport à ce qui avait été établi. Et on retrouve la même problématique, toute chose égale par ailleurs, au Liban, avec par rapport au cessez-le-feu. qui est régulièrement violé, et puisqu'il y a des opérations qui se multiplient de la part d'Israël, et ce n'est pas dissociable de la perspective d'un éventuel accord signé entre Américains et Iraniens. C'est prendre des gages temporellement dans l'urgence, dans la perspective où Donald Trump lui dirait d'arrêter.
Comment vous analysez le fait que les frappes continuent? On a encore cette nuit des annonces du côté de l'Iran qui dit « j'ai fait des frappes sur un certain nombre de drones, d'attaques ». Ça fait partie de la négociation? On frappe pendant qu'on négocie?
Oui, c'est pas forcément contradictoire, paradoxalement. Hein, c'est souvent ça, d'ailleurs. Il y avait souvent même une hausse des affrontements juste avant que un accord soit finalisé. Mais là, on est dans des effets d'annonce aussi, qu'ils ont évoqué le fait qu'ils auraient abattu un avion, ce qui n'est pas le cas. C'est pour montrer que effectivement on n'est pas en position de faiblesse et qu'on peut se permettre effectivement de tester l'autre, de tester les limites, la détermination par rapport avant une finalisation éventuelle.
Le patron de Total Energy hier dans le Figaro parlait d'une reconstitution totalement des routes pour faire passer le pétrole. Il parle d'une route passant par la Syrie qu'il voudrait pousser. Vous voyez-vous complètement le pétrole se réorganiser dans la manière dont il sort des pays du Golfe?
Ah, de toute façon, il y aura une dévaluation à terme du détroit. Parce que vu ce qui s'est passé, on considère qu'on ne peut pas être dépendant à ce point-là du goulet d'étranglement que constitue le détroit. Il y a déjà des routes terrestres qui sont plus ou moins établies. Il y a l'oléoduc du Golfe jusqu'à Yanbu pour les Saoudiens, hein, qui permet de faire sortir aujourd'hui entre 5 et 6 millions de barils. Il y a un oléoduc qui contourne terrestre aussi avec le port de Sharjah des Émirats qui contourne justement le détroit maritime. Et puis il y a des routes terrestres effectivement qui sont envisagées jusqu'à la Méditerranée via alors là c'est plutôt des camions pour l'instant, ouais, hein, qui gèrent c'est marginal, mais en tout cas il y a effectivement la réflexion sur, on va dire, le déroutage du monopole exclusif du détroit qui est trop problématique aujourd'hui.
Merci beaucoup David Rougoleros d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.